Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Merci d'être là avec nous, de vous asseoir à notre table, votre radio à portée de main peut-être à Lomé, Cotonou, Port-au-Prince ou bien à Séoul. Et si vous nous racontiez d'ailleurs un jour, où est-ce que vous écoutez la radio et comment vous l'écoutez? Qu'est-ce que vous mangez quand vous l'écoutez, cette émission? J'aimerais bien savoir. Enfin bref, racontez-moi. Sur notre table aujourd'hui, en tout cas, enfin à portée de vue, je vois une tasse, un verre, un gobelet, un filtre bien particulier, un filtre vietnamien. Oui, vous avez entendu, un filtre vietnamien pour du café. Bonjour Nam.
Bonjour.
Nam Nguyen, enchanté.
Enchanté de même.
Nous sommes contents de vous avoir à notre table. Vous êtes sourceur, barista et fondateur avec Lynn, votre femme, du Hanoi Corner, les premiers cafés vietnamiens de Paris, puisqu'il a été fondé en 2017. 6 ans déjà.
Des années mouvementées, mais le temps passe vite.
Le temps passe
déjà
vite.
6 ans.
Et de manière concluante, un café épicerie, puisque vous vendez aussi dans ce café épicerie du thé, des chocolats aussi que j'ai pu goûter, ainsi que des banh mi, ainsi que des bobounes. Enfin bref, toute une expérience. C'est rue Blanche à Paris. Et la personne qui a poussé la porte de votre Hanoi Corner un jour s'appelle Chloé Vasselin, elle est avec nous. Bonjour Chloé.
Bonjour Clémence.
Avec curiosité et votre goût habituel pour l'autre, en témoigne d'ailleurs votre blog, le Boui Boui Blog, et votre guide, le guide du Paris Boui Boui, paru aux éditions alternatives. Et voici qu'un jour, donc, vous m'avez parlé du Hanoi Corner, de ce café vietnamien, une surprise, car beaucoup, j'imagine, comme moi, associaient plutôt le Vietnam au thé et pas du tout au café.
Exactement.
Donc le chemin devant nous était tout tracé, il n'y avait plus qu'à s'organiser et se trouver devant cette table aujourd'hui. Donc bienvenue à vous deux et merci beaucoup d'être là. Je vais vous demander à l'un et à l'autre eh bien, de nous emmener hors de ce studio. Pourriez-vous nous emmener peut-être au Vietnam, en tout cas nous raconter votre première aventure de café vietnamien? Peut-être était-ce au Vietnam et peut-être pas.
Alors pour ma part, la première expérience du café vietnamien qui m'a fait démarrer mon aventure du coffee shop à Paris. C'était un moment de pause et c'est assez intéressant puisque au Vietnam, on est dans un pays, du moins à Hanoï, là où c'est une ville très très dynamique, il fait chaud, il y a beaucoup de bruit, des motos qui fusent. Et quand on prend un café, quand on s'arrête, quand je découvre le lieu du café, on est à l'inverse dans un lieu très reposant. Très peu de bruit, très calme. Et là, on va découvrir une autre façon d'appréhender le café, plus dans l'idée d'un café où on prend son temps. Et j'ai découvert du coup le filtre vietnamien qui permet de faire le café, là où on prend son temps, on laisse les gouttes descendre doucement devant nous dans le verre. Et après avoir patiemment attendu, on va avoir un café très rafraîchissant, avec des odeurs très chocolatées. Et ça permet de découvrir une autre vision du Vietnam que je n'avais pas encore découvert. Et c'est vraiment cette expérience-là que j'avais envie de faire découvrir à Paris. L'idée de prendre son temps et de découvrir un autre point de la culture vietnamienne.
C'est sûr que imaginer un café où l'on trouve du calme, ça semble même paradoxal par rapport à l'idée que l'on a du café où il faut toujours aller vite, vite attraper et vite goûter. Donc on est à l'opposé, en fait, dans l'appréhension du café.
Alors c'est vrai que par rapport à l'espresso, d'après certains, qui a été créé pour amener les ouvriers à revenir plus vite de leur pause café, au Vietnam, on est resté dans l'idée d'un café là où on prend son temps, comme un moment qui deviendra après, je trouve, au Vietnam, une sorte d'instant social, là où on prend son temps avec l'autre. Ça peut servir un instant entre collègues ou c'est bien avec un partenaire pour faire des réunions. Donc c'est vraiment un café où on prend son temps, un peu dans une sorte de prolongement avec l'idée là où on prend son temps avec le thé. C'est du coup un café qui a une dimension assez intéressante pour moi.
Alors je vais vous poser une petite question dans la foulée, mais d'abord je vais demander à Chloé de nous emmener hors de ce studio. Vous, Chloé, votre première expérience avec un café vietnamien?
Eh bien, je rebondis avec ce que vient de dire Nam, puisque ma première expérience de café vietnamien, c'était aussi à Hanoï. J'étais au Vietnam pour un voyage d'affaires. Mes collègues vietnamiennes que je ne connaissais pas m'ont donné rendez-vous dans un café. Alors, un café un petit peu populaire, puisque c'était en face d'une station essence. Donc là, je rejoins encore Nam sur le fait que alors, ça grouillait et il était je pense, 7h15, 7h30 du matin. Je venais d'atterrir, donc j'avais peu dormi dans l'avion et j'avais besoin d'un double expresso avec beaucoup de lait. Et je me suis retrouvée, j'ai laissé mes collègues choisir pour moi et je me suis retrouvée avec un café au lait de coco, un café très noir de base avec du lait de coco dedans, très onctueux, et ça m'a fait l'effet d'une caresse enveloppant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes collègues avec qui donc j'allais découvrir la ville pendant 5 jours. Et j'en garde un souvenir assez ému. Et pour le coup, je voulais y retrouver exactement ce même café en France après.
Qu'est-ce que vous avez mangé, si vous avez mangé en même temps que ce café?
Alors moi, pour le coup, ce café au lait de coco m'a été servi avec une petite coupelle avec des graines de tournesol salées. Ça m'a assez étonnée. Et j'avoue qu'à 7h30 du matin, j'avais quand même faim. J'étais en décalage horaire et je l'ai très bien mangé avec le café.
Et ça passait très bien avec
ça le café. Passait. Je me suis même demandé si c'était voulu pour avoir une saveur différente. Je ne sais pas, pour équilibrer, parce que le café que je venais de prendre était quand même assez fort, assez riche, assez amer. Et avec le lait de coco, ça a quand même mettait un peu de douceur ou de rondeur. Mais le côté salé de la graine de tournesol, je ne sais pas, équilibré en fait, ça apportait un équilibre.
Nam, vous mangez ou vous ne mangiez pas quand vous avez pris ce café?
Pour ma part, je ne mangeais pas, j'ai juste pris le café, c'est vrai. Et dans le lieu là où j'ai pris les différents cafés, on n'avait pas forcément les graines de tournesol. C'est vrai que ça dépend des différents styles de coffee shop qu'on va avoir au Vietnam. Il y en a des plus populaires, un peu moins. Au contraire, certains sont très luxueux et on va avoir une proposition d'accompagnement assez variée. Le salé, ça marche assez bien en général avec le café, puisque souvent, on dit souvent en petits tips de grand-mère de rajouter une petite pincée de sel quand le café est un peu trop fort ou trop amer. Et c'est vrai que ça réduit un peu l'impression d'amertume. Et en général, je trouve que d'expérience, on peut avoir des accords assez intéressants en salé avec le café. Et moi, de mon côté, c'est vrai que je suis plutôt café-café. Et sur le moment, j'avais seulement le café avec moi.
En tout cas, je crois qu'il faut sortir un peu de cette idée occidentale du café, forcément avec une part de gâteau sucré. Est-ce qu'on mange forcément, ou plutôt c'est un endroit où on va se retrancher du monde, un café vietnamien?
Alors, on n'est pas forcément accompagné, en effet, au Vietnam avec quelque chose. Hein. Ça dépend des endroits et des gens. C'est assez ouvert, au Vietnam. Au même titre qu'on pouvait avoir une diversification assez importante des styles de coffee shop, dans ce qui est proposé et dans ce que les gens vont choisir d'accompagner en café, on a beaucoup de choses qui varient. De mon côté, c'est vrai que je préfère les cafés en tant que tels, juste comme ça, parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de recettes de café au Vietnam. Comme le disait Chloé, on a les cafés au coco, avec de l'œuf. On a des variations avec le café salé, là où on met du sel. Donc on a énormément de variations de cafés qui sont déjà en eux-mêmes presque à moitié des desserts, puisque c'est assez gourmand quand on met avec du coco. Et la version qui peut paraître un peu étrange avec de l'œuf est très gourmande, puisque c'est une crème sabayon. Donc déjà en lui-même, des fois, le café, il se suffit.
Mais on va raconter tout ça, bien sûr, parce que là, ceux qui viennent d'allumer leur radio, ils entendent café, ils entendent œuf, sabayon, ils disent décidément, ce café vietnamien est assez étrange. C'est quoi l'histoire du café au Vietnam?
Alors, on va avoir les premières traces en 1857, a priori, de café au Vietnam. Ça serait amené par des jésuites au Vietnam, à Da Lat. Mais ça, c'est vraiment des petits plans. Après, on va avoir principalement une première vague de café qui va être amenée avec la colonisation par la France, puisque la France va amener du café au Vietnam. Et on va avoir des plants de café plus de l'arabica qui vont être amenés dans des endroits qui vont être propices. Donc pour l'arabica, il faut un peu d'altitude, il faut un certain type de météo. Et donc on va choisir souvent des lieux avec une certaine hauteur. Donc au Vietnam, on va avoir les plateaux qui se trouvent un peu au-dessus du sud, les plateaux de Da Lat, cette région de Da Lat, qui vont être utilisés pour planter de l'arabica. Après, on va avoir une deuxième phase, plus tard, après l'indépendance du Vietnam, où dans les années 90, le Vietnam va vraiment développer sa signature café, puisqu'on va passer d'une production inférieure à 1% de café en mondial, pour arriver à la deuxième place, puisque oui, le Vietnam, c'est le deuxième producteur de café au monde.
Voilà, deuxième producteur de café au monde après le Brésil.
Exactement. Et pour arriver à cette deuxième place, en fait, le Vietnam va plus choisir de porter son attention sur le Robusta. Donc là, le Robusta va être un peu plus bas. Et on va également avoir à côté d'autres personnes qui vont faire d'autres lieux, comme le nord du Vietnam, là où il y a du thé, puisque finalement, là où on peut planter du thé, c'est également un lieu là où on peut faire pousser du café.
Planter des caféiers et des théiers à peu près au même endroit. En tout cas, on est en zone tropicale. Il fait chaud, humide.
C'est ça. Il faut avoir une variation assez élevée, ce qui veut dire des matins et des soirs plutôt frais et des après-midi, des journées très ensoleillées. C'est cette variation assez forte avec de l'altitude qui est souvent choisie pour de l'arabica.
Et on va avoir du café et des grains qui sont comment ? Quel est le goût de ce café ? Bah déjà, il y en a plusieurs en fonction d'où on se situe et duquel on boit. Il est décrit comment ? Par exemple, le Robusta qui est le plus bu, je pense, au monde. Quel goût il a ?
Alors,
le Robusta vietnamien.
Oui, en effet. Donc, c'est vrai que le Robusta est la signature du Vietnam. Et c'est vraiment ce qui définit pour la plupart des gens le goût du café vietnamien, c'est avoir un café avec une trame très chocolatée, vraiment sur le chocolat noir, avec de l'amertume. On va préférer ne pas avoir trop d'acidité. Et c'est ce goût de café-là, un café qui a de l'intensité, une trame très chocolatée et pas trop acide. Voilà, ça va vraiment être la signature du café vietnamien. On va avoir plusieurs éléments qui construisent cette signature, puisque c'est le grain en lui-même, mais d'autres paramètres comme la méthode, les recettes.
Mmh. Et la fermentation aussi, j'imagine, la torréfaction, la fermentation du grain de café. Est-ce qu'il y a des différences justement qui vont varier et qui vont amener le café et le grain de café vers plus d'onctuosité, plus de notes chocolatées, comme vous disiez ?
Alors, on va avoir plusieurs types de fermentation. On a les fermentations naturelles, fermentation lavée. On a de façon plutôt moderne, vraiment maintenant, différents types de fermentations qui existent, qu'on pourrait appeler semi-lavées. Il y a aussi des fermentations un peu plus exotiques, là où certains parlent beaucoup au Vietnam et dans certains pays d'Asie du Sud-Est, des fermentations qui sont obtenues par des animaux,
oui,
comme la civette.
Donc
voilà, souvent sur l'ordre de la fermentation, le Vietnam fait plus parler du fait qu'on a des civettes qui mangent les cerises de café, et naturellement, pendant la phase de digestion, ça crée une fermentation naturelle des grains de café qui donne un goût un peu spécifique au café. Et c'est devenu un peu dans l'idée de quelque chose d'un petit peu signature au Vietnam, même s'il y a d'autres éléments qui sont pour moi un peu plus signature sur le Vietnam.
Il était indécent de rouler pendant 2 heures, de parcourir 37 km sur une route de terre parsemée de crevasses de mines explosées pour prendre un café avec son grand-père. Même si c'était un café rare, issu de fruits de café mangés par des renards, mais dont les graines n'avaient pas été digérées. Selon les dires des amateurs, une seule tasse de ce café suffisait pour enivrer, puisque les graines passaient par un processus de fermentation dans l'estomac des renards avant de suivre le cours habituel de la nature. Aujourd'hui, mon père croit encore que le café qui lui est envoyé du Vietnam est le meilleur. Chaque matin, il le prépare en mettant une cuillerée dans un filtre qu'il dépose directement au-dessus du verre. Il y verse de l'eau chaude et regarde les gouttes tomber, une à la fois, sur la couche de lait concentré dans le fond. Ploc, ploc, ploc. Peut-être qu'un jour, je lui proposerai de partir avec moi, de refaire le même chemin, pour partager un de ses cafés, afin de voir le vent dans ses cheveux devenus gris, comme ceux de son grand-père.
C'est Kim Thuy, l'écrivain qui nous en avait parlé, et donc un extrait de son livre.
C'est un café qui est très rare. Alors, ce qui est difficile au Vietnam, c'est de trouver du vrai café de renard ou de civette. Ce qui est difficile, c'est que comme c'est un café qui est très rare, derrière, avec le prix que ça amène, certaines personnes vont faire des contrefaçons. Et comme c'est très rare et que pas grand monde n'a la possibilité de le goûter, on ne sait pas trop vraiment quel est le goût et ça devient difficile d'avoir une certaine authenticité. Donc c'est vrai qu'en dessous d'un certain prix, c'est difficile d'en avoir du vrai, de l'authentique. J'ai déjà goûté une fois. Ce qui est difficile de comprendre, c'est l'apport apporté par la civette. c'est qu'il faut d'abord avoir connu le goût du café en lui-même sans avoir été ingéré par la civette. Il faut connaître du coup le goût du Robusta pur pour comparer avec du café de civette qui a été ingéré. Et dans le cas du Robusta, ça lui apporte en fait un peu plus de douceur.
De douceur, c'est et ça. Pas du tout d'acidité comme fait souvent la fermentation.
On va avoir un peu d'acidité. La torréfaction peut jouer sur l'acidité. C'est toujours un peu complexe dans un café puisque entre le moment là où on le boit et les différentes étapes, chaque étape, que ce soit sur la torréfaction, l'extraction ou la fermentation, chaque élément va un peu apporter sa part sur l'acidité ou sur les arômes. Donc c'est un tout, c'est toujours un peu difficile de retirer chaque élément. C'est quand même un café assez rare, donc c'est un peu compliqué. Ce que j'ai remarqué au global sur ma tasse, c'est que ça avait un peu plus de douceur et moins d'amertume pour un Robusta habituel. Et c'était le résultat que j'avais pu constater sur le café de civette.
On est plutôt dans du souvenir, alors. Ça donne une impression un peu de mythe, quand
complètement.
Même.
C'est ça.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme. And have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know, where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there, 'cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
Time. Nathalie Cole sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Le café va couler tout à l'heure, dans quelques instants, un café vietnamien. Une culture française à la base, filtrée à la vietnamienne. Nam Nguyen est avec nous. Il a fondé avec sa femme Lynn le Hanoi Corner. Nous sommes aussi avec Chloé Vasselin, la créatrice du Bouiboui Blog et du guide du Paris Bouiboui, paru aux éditions alternatives. Et nous parlons donc de ce café vietnamien qui est une, je l'avoue, une découverte. Je ne connaissais pas l'existence de ce café. Vous êtes arrivé en studio aujourd'hui avec ce qui fait la particularité, je crois, outre le grain, bien sûr, du café. Est-ce que vous pourriez me parler de ce filtre ?
Alors, le filtre vietnamien, ce qui est très drôle, c'est que on appelle ça actuellement le filtre vietnamien, mais initialement, ça a été créé en France. Et c'est la France qui va amener le café au Vietnam avec la colonisation. Et en France, on va oublier l'existence de ce type de filtre. Et on va appeler ensuite, du coup, cela le filtre vietnamien, tout simplement parce qu'au Vietnam, ça devient la manière usuelle de faire un café. Et Du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'on est sur un café, une méthode qu'on appelle filtre vitamin, mais à la base, c'est français. Donc, ça pose beaucoup de questions à savoir sur est-ce qu'on devrait l'appeler filtre vitamin ou pas. Au Vietnam, on appelle ça un filtre à café, tout simplement.
Il est devenu complètement culturel au Vietnam. Il fait partie de la vie, ce café.
Oui, le café au Vietnam, c'est vraiment une culture à part entière, puisque chaque élément qui constitue la création d'un café, c'est-à-dire la partie de production, le Vietnam est producteur de café, mais également la torréfaction. On va avoir une torréfaction un peu spécifique. On peut aussi avoir la fermentation avec l'histoire des civettes, mais également les recettes. Et comme le mode de préparation avec le filtre vietnamien, chaque petit élément a une petite particularité au Vietnam, ce qui en fait vraiment une culture globale très intéressante sur le plan du café.
J'ai eu de la chance de goûter votre café. Donc Chloé m'a demandé si j'avais trouvé qu'il avait des notes chocolatées d'ailleurs. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi l'allusion tout de suite au chocolat. Et il y a une approche dans la lenteur. C'est ce filtre qui impose cette lenteur au café, à son expression.
Alors oui, les méthodes filtres sont des méthodes qu'on appelle des méthodes douces en café et ça amène à prendre son temps. Et l'avantage de prendre son temps, c'est qu'on va extraire des arômes qu'on ne va pas pouvoir extraire quand on va rapidement. Par exemple, un même café extrait en expresso et en filtre en méthode douce n'aura pas le même goût. Mmh. En espresso, on va avoir beaucoup plus d'acidité en général. En filtre, on va avoir quelque chose de plus doux, mais finalement qui va plus extraire les différents arômes du café, puisque certains arômes nécessitent un temps de contact entre l'eau et le café plus important, qui fait qu'en général, on a un café qui a des arômes assez différents. Et derrière, sur le plan de la caféine, il faut plus de temps pour extraire bien la caféine. Donc c'est un café également qui contient plus de caféine et qui réveille plus.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. On aurait plutôt tendance à penser
qu'un expresso, ça booste, alors qu'en fait, une tasse de café fine, de café filtre, ben c'est un double shot de café en une seule tasse.
Vous avez dit café fine.
Oui.
C'est le nom du filtre ?
En effet, au Vietnam, un filtre, on appelle ça un fine.
Ouvrez-le, là, qu'on le présente un petit peu. Donc, c'est, on dirait presque une tasse de café, en fait. Une tasse de café dont le fond serait percé.
Exactement.
Ça ressemble à ça ?
Alors, c'est un filtre, donc c'est en effet comme une sorte de tasse. On a des fois un porte-filtre avec le filtre, et des fois en une seule part, mais au global, là, on va avoir un porte-filtre avec des trous donc, qui permet de filtrer, et ensuite une sorte de tasse avec des trous qui filtre également, et on va avoir une petite presse pour maintenir le café. Et c'est une méthode très simple pour faire le café. La seule chose que ça impose, c'est de prendre son temps. Des fois dans la vie, c'est toujours bien de prendre son temps et on apprécie mieux du coup le café de cette manière.
Je crois que la pluie, les orages, c'est un peu tous les jours un orage quand on est au Vietnam, j'ai entendu dire. Et donc, est-ce que ce serait un bon climat pour faire un café ? Est-ce qu'on se lancerait dans le café, là ?
Ah, complètement.
Hein, je pense.
Est-ce qu'on peut... C'est le moment.
Oui. Allez, c'est parti. Un café, là. C'est parti, parce que je crois qu'on a la bouilloire, donc on va pouvoir faire chauffer l'eau pour faire filtrer le café ensuite. Chloé, quand vous avez rencontré Nam, vous connaissiez le café vietnamien ? Oui, pour l'avoir
vu au Vietnam.
Je connaissais
déjà le café vietnamien pour l'avoir testé et expérimenté à Hanoï, mais je ne savais pas en fait qu'il y avait un premier café. J'étais passée à côté de ça, en premier coffee shop à Paris, chez Hanoï Corner. Et en fait, c'est en faisant mes petites recherches terrain dans le 13e, étonnamment, que j'ai trouvé Hanoï Corner dans le 9e. Voilà, j'étais aussi dans le cliché. J'étais pas au bon endroit. Et en entrant, en fait, en poussant la porte de chez Hanoï Corner, j'ai eu cette même impression qu'à Hanoï, où pour le coup, j'étais dans une bulle où il n'y avait plus les bruits de la rue. Il y avait une petite... alors, je ne connaissais pas la musique, mais j'ai bien aimé la playlist. Et il y avait ce côté à la fois moderne et ancien, avec des briques, etc. Je me suis de suite trouvée en voyage, mais en voyage au coin de la rue.
Ce qui est quand même votre marque de fabrique.
Oui, j'essaye de le dégainer de temps en temps.
Mais parce que vous savez ouvrir les yeux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et vous nous aidez à ouvrir les yeux. Et donc, vous proposez des ateliers dégustation et découverte du café vietnamien.
Tout à fait.
Et alors, comment ça se passe?
En fait, c'est une expérience de 2 heures chez Hanoi Corner.
Qui est tout en longueur.
Qui est tout en longueur, exactement. voilà, une sorte d'immersion au sein même du café de Nam, où je présente en fait Nam, déjà, sa démarche aussi. Parce qu'il faut savoir en fait que la première fois où je suis allée dans ce café, j'ai de suite apprécié la lenteur dont on vient de parler et la démarche pédagogique de Nam qui m'expliquait justement comment apprécier le goutte à goutte et observer la lenteur. Donc,
ploc, ploc, ploc qu'on entendait tout à l'heure dans
tout
la
à
lecture.
Fait. Et je me suis dit, oulala, mais ça, il faut le partager.
Et est-ce que c'est quelque chose, une démarche justement que les gens qui viennent chez Hanoi Corner, qui découvrent votre café vietnamien, est-ce qu'ils comprennent bien l'idée justement de cette lenteur-là?
Alors souvent, les gens viennent chez nous et on n'a pas forcément en tête que le Vietnam est un producteur de café et donc on n'a pas forcément tout de suite l'idée d'un café vietnamien. Souvent, ils viennent plus pour manger. Et après, ils vont voir sur la table d'à côté un café différent. Et en général, du coup, ils vont le commander aussi. Et ils vont découvrir, du coup, l'expérience d'un café vietnamien. Et c'est justement l'occasion de découvrir quelque chose de différent. Et ça fait partie du jeu de l'expérience de prendre son temps, du coup, d'apprécier ce café qui goûte devant soi, puisque c'est vraiment... un instant assez particulier quand on le prend.
Ce qui est amusant, c'est que quand je suis venue chez Hanoi Corner, il y avait 2 tables plus loin à ma droite, une table de 3 personnes, dont je pense 2 des personnes étaient d'origine asiatique et vietnamienne. Avec une 3e personne, est-ce que vous êtes l'endroit justement d'un partage de culture? Vous êtes devenu l'endroit d'un partage de culture des générations, en fait de la 3e, 4e génération?
Alors en effet, c'est vrai que de mon côté, je vois souvent la gastronomie comme une part de la culture d'un pays.
Je vois pas du tout. C'est particulier comme idée.
Oui, hein.
Et c'est vrai que ce que je trouve important, c'est que je me considère comme une sorte d'ambassadeur de la culture vietnamienne. Et cette lenteur, cette expérience, elle est pour moi importante puisque auparavant, quand j'allais au restaurant vietnamien à Paris, on avait bien un café vietnamien qui était indiqué à la carte. Sauf que quand le café il vient tout fait et qu'on n'assiste pas à cette expérience-là, on va louper tout ce qui crée en fait le café vietnamien. Puisqu'on ne se posera pas la question de est-ce que c'est fait avec un filtre? Est-ce que c'est des grains de café du Vietnam? Souvent, beaucoup vont dire que le café vietnamien, c'est juste un café à gueuler concentré. Et c'est dommage parce que d'autres pays le font aussi, comme en Espagne avec le café Bon Bon. Et il y a différentes particularités qui le constituent, qui sont du coup le filtre qui crée cette expérience-là. Et également le fait, du coup, on profite de ce temps d'attente pour expliquer aux gens les différents petits détails qui font la particularité d'un café vietnamien.
Et tout l'enthousiasme d'ailleurs de cette table où les 2 femmes étaient là. Oui, alors tu sais, au Vietnam, en fait, on boit le café comme ça. Alors tu peux prendre le café. Alors celui de base, c'est celui dont vous avez tous les 2 parlé depuis le début de cette émission, avec du lait concentré. Donc comment ça fonctionne ce café-là? C'est le traditionnel avec le lait concentré?
Alors c'est celui qui est le plus connu souvent quand on parle de café vietnamien.
Donc le lait concentré à rajouter après?
Ça dépend, il y a plusieurs méthodes, puisqu'on a plusieurs styles de café au Vietnam. Dans les coffee shops, souvent, on va avoir une tasse, on va mettre un fond de lait concentré, et on va mettre le filtre, et le café va couler sur le lait concentré. Et on va avoir 2 belles strates, puisqu'on va avoir une strate de lait concentré et une strate de café, et on va mélanger ça. Et ensuite, on peut le glacer si on veut. Dans les cafés dans la rue, comme c'est fait pour aller vite, du coup, en fait, c'est préparé à l'avance le café. Donc, ils vont faire un mélange de lait concentré avec la glace et rajouter le café après. Donc, ça dépend des cas. Nous, on a préféré l'idée de l'approche coffee shop, là où on a vraiment le filtre devant soi avec le café qui coule sur le lait concentré.
C'est très visuel en plus, il y a un côté couleur assez joli.
Et alors vous avez parlé de glaçons parce que le café glacé est aussi très courant.
En effet, au Vietnam il fait très très chaud.
Chaud, humide, on se lève tôt pour justement éviter d'être tout de suite dans la grosse chaleur.
Exactement, il fait chaud, la chaleur elle nous assomme, il fait humide. Et là le café, le combo caféine plus fraîcheur pour se réveiller et se relancer... C'est juste le combo parfait quand on est au Vietnam.
Donc café glacé avec les glaçons. Et pareil, on va voir les gouttes de café glisser le long des glaçons et le verre se remplir au fur et à mesure. C'est tout un cérémonial.
Exactement. C'est vraiment un des éléments que j'adore. C'est cette part là où, comme une cérémonie de thé, on a toute une expérience, là on prend son temps et on peut se délecter de chaque instant. Aussi bien le moment là où ça coule devant soi, que le moment de mélanger les glaçons, que le boire. On peut prendre le temps d'appréhender chaque petit élément de dégustation.
Le café, c'est le matin, à midi, le soir, quand on se couche à 23h, c'est quand ?
C'est tout le temps. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surprise au Vietnam. C'est que je pense que ça ouvre à 6h30 du matin, ça ferme peut-être à 23h. Et moi, pareil, la première journée où j'ai donc bu mon premier café le matin à 7h30, en sortant du boulot, on m'a dit « Ah ben, on va aller boire un verre ». Et je me suis dit « Ah, on va aller boire un apéro ». Une bière ou quelque chose ? Non, pas du tout. C'était encore un café. Et donc, toujours en décalage horaire, eh bien, le dernier verre de ma journée, c'était encore un café. Ce qui, pour moi, je pensais que j'allais pas dormir.
Enfin, oui. Et
bon, je n'ai pas dormi. J'étais vraiment décalée.
Oui, parce que vous étiez très heureuse.
Mais c'est vrai, c'est peu courant. Et c'est, Nam en parlait tout à l'heure, mais pour le coup, le café, c'est vraiment un pilier, finalement, de l'alimentation au Vietnam. Mais c'est aussi un art de vivre. Et on va retrouver du café dans des cocktails, on va retrouver du café, juste en tasse ou carrément dans des très grands verres. Et c'est quasiment des desserts. Il y a un fameux café avec de l'avocat maintenant, ou du café avec du yaourt, il y a de tout.
C'est la base de goût de plein de choses dans la culture culinaire.
Oui, et pour revenir sur des cafés ouverts un peu à n'importe quelle heure, c'est vrai qu'il y a des cafés qui sont ouverts 24 heures sur 24 au Vietnam. Et sur certains cafés que j'ai visités au Vietnam, le moment là où ils étaient le plus remplis, c'est vrai que c'était à 6h ou 7h de l'après-midi. Et comme le disait très bien Chloé, elle sortait pour prendre un verre. En fait, c'est aussi un lieu social, puisque au Vietnam, on n'a pas l'équivalent des brasseries, puisqu'on a des lieux pour boire de la bière. Mais c'est souvent plutôt connoté très masculin. Et donc, quand on veut simplement prendre un verre rapidement, comme ça, pas forcément pour faire une grosse soirée, mais juste prendre un petit verre pour
ensemble.
Papoter, pour être ensemble, le lieu qui est indiqué pour ça, qui est maintenant devenu naturel au Vietnam, c'est le café, c'est le coffee shop. Voilà. Donc, c'est pour ça que les coffee shops sont ouverts jusqu'à très tard le soir. Et certains coffee shops vont être beaucoup plus fréquentés le soir que le matin. Donc, voilà. Ça peut être assez déroutant la première fois, mais c'est très intéressant à voir.
On s'y fait,
donc
manifestement.
C'est également un aspect qui a dépassé son cadre, c'est que c'est aussi un lieu social et un instant un peu particulier chez les Vietnamiens.
Le goût du monde. Clémence de Navi. I wanna be vegan. You wanna be vegetarian. Tu ne veux pas aller au marché, tu ne veux pas manger de légumes, tu ne veux pas marcher au marché, tu préfères faire la glace matinée.
Grâce Mat, de Vodou Game sur RFI. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Vodou Game, le groupe togolais. Vous écoutez Le Goût du Monde dans le parfum et les arômes du café vietnamien avec Nam Nguyen, le fondateur, avec sa femme Lynn du Hanoi Corner à Paris et Chloé Vasselin autour du guide du Paris Bui Bui. C'est rigolo parce que juste avant en fait, d'aller dans ce studio, nous sommes passés par la rédaction vietnamienne de RFI et on a discuté avec le rédacteur en chef de la rédaction qui nous a parlé de plusieurs cafés à Hanoï et il nous a parlé de deux cafés, moi je ne connaissais pas évidemment, donc le café au pied chaud, donc qui est réchauffé comme un bain-marie, la tasse de café est posée dans un bol, ce qui permet de garder le café au chaud, on est d'accord, j'ai bien compris?
Oui, c'est ça.
Et il nous a donné aussi un autre souvenir, 3 gouttes de café sur la cigarette pour avoir l'impression de café en même temps qu'on fume sa cigarette. C'est étonnant à quel point ce café lie les générations. On le sentait vraiment avec l'envie de partager.
Alors c'est vrai que ce qui est toujours magique dans le café, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait apprécier le café avant son goût, c'est que le café, il a cet effet magique de rassembler les gens. C'est que pour certains cas, au départ, avant que je puisse apprécier le café, ce que je trouvais incroyable, cette capacité à rallier, à créer de l'échange entre les gens, et ce qui a été le cas là. Et en effet, on a des petites particularités. Comme on est sur un café qui, là où on prend son temps, le café va couler doucement dans le verre et il peut du coup rapidement perdre en température. Donc, dans certains cas, on va prendre un bol d'eau chaude et on met le verre dedans pour maintenir la chaleur du café.
Café au pied chaud. On avait aussi très imagé. Ouais, ouais. On a aussi des cafés. Donc, on a parlé du café avec le lait concentré. Il y a aussi donc des cafés avec des glaçons, des cafés au lait de coco.
Oui.
Comme de l'eau ou de lait.
L'eau ou du lait de coco, de la mousse de coco aussi. Et peut-être revenir sur ce café aux œufs.
Oui. Alors, c'est un café qui a été inventé par le créateur du café Zhang, qui est à Hanoï. Et lorsqu'il travaillait dans un hôtel, à un moment, l'histoire, c'est qu'il y a eu une pénurie de lait. Pour compenser un peu le lait, il a pris des jaunes d'œufs et il a battu. Et ça a fait une crème sabayon. Donc, la recette, c'est de prendre des jaunes d'œufs, un peu de lait concentré, un peu de sucre. Et on va battre ça. Et ça monte comme une sorte de crème très onctueuse. Et on va mettre ça au-dessus d'un café. Et c'est un café qui peut paraître assez étrange au départ. Mais quand on a goûté et qu'on a compris que c'est une crème sabayon, c'est en fait un café dessert qui est assez gourmand et régressif.
Il devient très doux, du coup
tout en douceur, c'est de la volupté. Enfin, moi, je pourrais me lever la nuit pour un café aux œufs. Ouais, ouais. En tout cas, là-bas, à Hanoï.
Et c'est ce que vous faites découvrir à l'occasion, justement, des ateliers. Donc, comment ça se passe, un atelier? Vous arrivez, bonjour, Nam.
effectivement, en fait, chacun se présente déjà. Et puis, donc, généralement, s'il y a un petit groupe, on est entre 3 et 6 personnes maximum pour garder ce côté assez agréable et on peut justement discuter tous ensemble. Et l'idée de 2 heures de voyage, au final, ici, c'est d'apprendre à l'histoire du café, de comprendre quelle est la différence entre un café robusta et un café arabica, qu'est-ce qui fait l'essence même d'un café vietnamien, ce dont on parle depuis tout à l'heure, les recettes, la manière de le préparer, et surtout il y a une dégustation forcément.
On l'attend.
On déguste, donc chaque personne déguste un café comme il a envie, comme il le souhaite, donc Nam est assez pointilleux là-dessus pour savoir qui aime quoi.
Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées particulières que vous posez aux différentes personnes qui sont là?
Alors souvent, on va s'adapter par rapport aux personnes, puisque en café, on ne se rend pas forcément compte, mais les gens ont des goûts très variés en café, puisque certaines personnes vont aimer les cafés plutôt forts, amers, chocolatés, et à l'inverse, on peut avoir des personnes qui vont aimer les cafés plutôt doux, fruités, acidulés, et en fonction du type de goût, je vais en fait expliquer comment on peut avoir ce type de café qui nous plaît, parce que je pense que c'est le plus important de faire un café qui nous plaît, et avec la méthode vietnamienne et les grains de café du Vietnam. Donc de notre côté, on va expliquer en fonction des personnes la recette qu'il puisse faire chez lui pour se faire plaisir. Parce que d'autres personnes vont aimer au contraire faire le café avec du lait concentré, parce que c'est plus gourmand. Donc nous, on va expliquer en fait un café pendant l'atelier pour que la personne puisse se faire un café vietnamien chez elle, à son goût.
Et en plus, ils repartent chacun avec un petit filtre.
Un petit filtre, un petit film.
Comme ça, le voyage est prolongé.
Alors, parce que l'avantage de ce petit filtre, c'est qu'il tient dans la poche.
Alors moi, je l'emmène même en rando.
Oui, c'est ça, on peut tout à fait voyager avec, hop, facile.
Exactement. C'est tout petit, c'est très simple. On n'aurait besoin de rien d'autre qu'une bouilloire. Donc derrière, il n'y a pas de papier pour le filtre. Donc c'est plutôt écologique. Donc pour moi, je vois que des plus.
Que des avantages.
Et c'est joli. En plus, je trouve l'objet très joli.
Les premières personnes à être venues aux ateliers café vietnamien, quels ont été vos premiers clients ?
Alors, les premiers qui se sont inscrits à cet atelier de dégustation de café vietnamien, on a eu une petite famille, la fille et ses parents, et puis deux autres personnes qui n'étaient pas du tout consommatrices de café, qui étaient des amateurs de thé, donc c'était amusant. Et en l'occurrence, la petite famille, c'était dans une démarche parce qu'ils partaient bientôt au Vietnam et voulaient d'abord connaître en fait ce pan de culture avant même de pouvoir partir dans le nord du Vietnam. Donc j'ai trouvé que c'était très à propos. Et les autres personnes qui souhaitent s'inscrire sont étonnamment, enfin on a été très étonnés avec Nam de voir que c'était des gens qui n'étaient pas forcément consommateurs de café et qui venaient plutôt du thé et qui avaient envie de changer et de changer leur manière de voir le café.
D'accord, de découvrir un autre
autrement.
Univers.
Exactement, donc je trouve ça assez intéressant. On a aussi des amateurs de café, hein, faut bien se le dire.
Voilà. J'ai envie de proposer quelque chose. Nam, est-ce que vous nous prépareriez un café pendant que nous écoutons la carte postale que nous avons reçue de Maxime et Margot? Nos deux cuisiniers voyageurs sont partis pour une année faire un tour de l'Europe et de ses cuisines. Voici leur carte postale.
Salut Clémence, on est bien arrivé en Toscane, là où ma grand-mère me conseillait d'aller depuis des années, et c'est vrai que c'est magnifique. On a rejoint Gabriel, un chef franco-italien, pour quelques jours. Il a un vieux camping-car et il fait le tour des producteurs d'Italie. Et il nous parle d'un producteur assez étonnant, qui produit du lait pour le meilleur glacier du monde. Alors forcément, on se dit que si c'est pour le meilleur glacier du monde, ça doit être le meilleur lait du monde. Et on veut rencontrer les vaches qui le produisent. À la ferme de Camporbiano, on est assez loin du mythe de l'agriculteur solitaire. On découvre une grande famille. C'est une ferme assez avant-gardiste, qui a été créée il y a 35 ans. Elle est depuis toujours biologique, et surtout, elle est gérée par plusieurs familles qui vivent toutes sous le même toit, mangent ensemble, et prennent les décisions à l'unanimité. C'est sûr que quand on voit la table de la salle à manger, on se dit qu'ici les repas ça rigole pas. On doit pouvoir dîner à 30 au moins.
À Camporbiano, l'idée c'est de faire une production la plus diversifiée possible, mais en petite quantité. Comme ça, chacun peut trouver sa place en fonction de ce qu'il aime. Ils produisent des céréales, des olives, du miel, des fruits, des légumes, mais encore plein d'autres choses. Ils ont choisi de tout transformer eux-mêmes et de vendre en direct à la ferme les 35 variétés de fromage et tous les autres produits. Et nous, on a acheté du fromage. Et avec ce fromage, Gabriel, le chef qui nous accompagne, nous a soufflé une petite idée de recette qu'on va te partager. C'est un fromage grillé à la poêle, accompagné d'un chimichurri de plantes sauvages. On a acheté aussi une roquette et des petites pommes de terre nouvelles de la ferme. Le chimichurri, c'est une sauce qui sert de condiment en Amérique du Sud, pour la viande en général, mais aussi pour le poisson. Cette recette était vraiment super bonne, et du coup c'est devenu un de nos plats préférés dans le camping-car. Et Fabio, qui a créé la ferme avec sa femme, est aussi un grand philosophe. On a adoré discuter de sa vision de l'agriculture. Pour lui, l'agriculture, ça se passe aussi dans la tête. Par exemple, il a décidé d'avoir juste le bon nombre de bêtes qu'il pouvait nourrir avec ses champs. Comme ça, pas d'importation. Et surtout, sa ferme est un lieu de transmission pour une agriculture nouvelle, respectueuse du vivant et avec un modèle économique permettant aux agriculteurs de Camporbiano de bien vivre.
Après cette journée, on file vers le village de San Gimignano, goûter la fameuse meilleure glace du monde à la gelateria Dondoli. Moi, je suis une inconditionnelle de la glace à la pistache. Mais je me lance aussi dans un des parfums phares de Dondoli, framboise romarin. Maxime, lui, il prend vanille chocolat. Classique.
On n'est pas des pros de la glace, mais on est sûr que ce crémeux vient de la qualité du lait produit par les belles vaches de cette ferme. Bon, on espère que c'est la période des glaces aussi pour toi à Paris. Et on t'embrasse.
À bientôt Clémence.
Terre-Terre, c'est le nom de leur aventure. Il y a un compte Instagram pour les voir, échanger avec eux et partager vos bons plans. Toutes leurs cartes sont aussi sur les pages de l'émission. On travaille à leur faire un cocon digne de ce nom. Alors là, le parfum du café vient d'envahir le studio. On entend la bouilloire. Ah, le lait concentré est en train d'être versé dans la tasse.
L'odeur est juste envoûtante.
Donc là, on voit, vous avez versé l'eau dans le filtre à café.
Exactement.
Les gouttes sont en train de délicatement tomber sur le lait concentré qui a garni le fond de la tasse. Et puis c'est hyper joli, quoi. Et on voit vraiment le contraste entre les deux couleurs, c'est top. Et ça sent divinement bon. On m'avait parlé aussi, Nam, d'un café salé.
Oui.
C'est donc nouveau, ça. Il y a des nouvelles recettes qui sont en train de se créer ou ça, c'est une ancienne recette?
On a ce café qui existe depuis un petit temps. Pour moi, je l'avais vu plutôt vers le centre du Vietnam et il commence à un peu plus démocratiser dans d'autres parties du Vietnam, au sud et au nord. Donc, c'est un café, comme je disais tout à l'heure, qui, finalement, le salé peut bien aller avec le café et donc, du coup, qui commence à être un peu plus connu et populaire au Vietnam. Mm. Et donc, on a plusieurs versions puisqu'il y a des gens qui font le café salé, café juste avec un de sel, et d'autres là où c'est du lait ou de la crème avec du sel, en plus du café.
D'accord. Si jamais j'ai pas de café vietnamien chez moi, mais que j'ai un fin, je peux quand même?
Oui, en fait, n'importe quel café peut se faire avec n'importe quelle méthode. C'est juste que ça va demander un peu plus de... Enfin, de toute façon, sur tous les cafés, il faut toujours prendre le temps de découvrir un café pour voir comment chacun le préfère. Et avec chaque méthode, on va juste s'adapter en fonction du café et de ses goûts.
Ça sent divinement bon. Je pense que ceux qui vont nous succéder dans ce studio seront contents et auront très envie de café. L'émission est en train de se terminer déjà. Je vous avais demandé de réfléchir, parce que c'est la tradition, un ingrédient et un ustensile en relation avec le café. Nam ?
Évidemment, je vais choisir le filtre vietnamien. Et pour l'ingrédient, je vais utiliser un élément qui est pour moi un peu la base de la cuisine vietnamienne, c'est la sauce Nguyen Mam, donc la sauce de poisson.
Et un café sauce Nguyen Mam, ça c'est pas possible ?
Ah, il y a des mythes comme quoi certains ajouteraient quelques gouttes de Nguyen Mam pendant la torréfaction du café. Je ne suis pas sûr que ça se fasse au Vietnam.
À tester en tout cas. Chloé.
Je prendrai une petite cuillère, parce que pour le coup, souvent le café au Vietnam est servi avec une petite cuillère pour pouvoir justement
mélanger
et donc rendre les deux strates dont Nam parlait tout à l'heure plus diluées. Et en ingrédients, je suis toujours une dingue de poivre, donc je vais prendre du poivre et je me dis bah, pourquoi pas, puisqu'on mettait du sel, est-ce qu'il y a des endroits où on peut mettre du poivre?
Pourquoi pas, en effet, c'est une bonne idée, ça, un café poivré. Est-ce que vous essayez des nouvelles recettes à Hanoi Corner?
J'ai pas entendu parler de café poivré. Par contre, pour un café épicé, je sais qu'il existe au Moyen-Orient des cafés avec de la cardamome ou d'autres épices. Oui. J'ai pas eu l'occasion de le goûter à Paris, de trouver un coffee shop qui propose un café avec des épices. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être incroyable, que j'aimerais essayer.
Bah que ceux qui nous écoutent envoient leurs adresses et leurs conseils de recettes de café, parce que ça pourrait être donner lieu à des découvertes. Mmh. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Chloé. Merci, Nam. Les liens pour vous suivre sont sur la page du Goût du Monde, évidemment. Et faire vos différentes balades, parce qu'il y a plusieurs circuits. Il y a l'atelier, évidemment, de café chez Nam. Et puis il y a d'autres...
Il y a des visites guidées culturelles et culinaires.
Et des petits déjeuners, maintenant, je
crois. Et maintenant, des petits déjeuners. Ah. Bientôt, un petit déjeuner vietnamien.
Nous aurons donc un bouillon.
Exactement.
Et un lien vers votre newsletter aussi à laquelle on peut s'abonner, elle s'appelle L'Escale.
Et L'Escale.
Et c'est toutes les...
Tous les mois. Une fois par mois, je donne mes bons plans pour voyager au coin de la rue.
Tout à fait, et découvrir et déguster et tout ça. Une recette partagée peut-être de café?
Oui, une recette de café, le café au lait concentré.
Tout simplement.
Très simple, très accessible.
Ben voilà.
Ou un gâteau au manioc.
Un très bon gâteau au manioc, absolument. Et puis d'autres délices. Et vous, qui nous écoutez, peut-être que vous pourrez partager une recette. Qu'est-ce qui évoque le café pour vous? Le café lait concentré, peut-être que ça vous inspire également. J'imagine que ça doit inspirer du côté de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le café chez vous, bref, comment se partage-t-il? Racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 par mail lgdm@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Merci à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À tous de nous écouter. Vous pouvez aussi nous partager, tout simplement en écoutant et en partageant le podcast de l'émission sur votre plateforme préférée. Bonne semaine à tous, à samedi prochain. Mijoter rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.